bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Nous irons aujourd'hui en Irak, un pays bouleversé par l'histoire qui aujourd'hui manque terriblement d'eau.
Je produis des légumes et j'élève un peu de bétail. Jusque-là, ça suffisait pour faire vivre ma famille. Mais maintenant, on a survécu aux terreurs de Saddam Hussein, à la guerre civile, et on craquerait à cause du manque d'eau. Tout ça parce que la Turquie construit toujours plus de barrages et nous assèche à petit feu. Qu'est-ce que je vais devenir ?
L'Irak recouvre une zone géographique que l'on appelait avant la Mésopotamie, ce qui veut dire le territoire entre deux fleuves. Une région qui fut fertile dans le passé, mais qui aujourd'hui est confrontée à de nombreux problèmes, et notamment à un manque d'eau qui menace la survie de ses 25 millions d'habitants. Des barrages construits dans les pays voisins ont diminué le débit des fleuves qui arrosent l'Irak. Le niveau des pluies a baissé, une sécheresse accable depuis 2 ans les agriculteurs. La guerre a détruit de nombreuses infrastructures, le désert gagne du terrain et la sécurité. La sécurité alimentaire est sérieusement menacée. L'Irak en manque d'eau, un reportage d'Edith Bouvier à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Pour resacraliser cette eau, c'est même pas juste une question d'économie. Il y a tout un côté conceptuel, philosophique à remettre en question et lui redonner sa juste place.
Et maintenant, on commence notre tour de l'actualité environnementale avec notre témoin du jour. Et aujourd'hui, nous recevons Jacques Exbalin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur des écoles en région parisienne, bien qu'originaire de Camargue, hein, c'est un point important.
Tout à fait, tout à fait.
Et passionné d'écologie, ce qui vous a amené à faire des conférences, vous animez des débats sur ce thème à travers toute la France. Et vous venez de sortir un livre à l'Harmattan, préfacé par Yann Arthus-Bertrand, intitulé « Le réchauffement climatique à la portée de tous », que vous continuez d'ailleurs à mettre à jour. Alors, comment est née cette passion de l'écologie ?
C'est une passion lointaine, puisque de tout temps, je suis originaire aussi de l'Ardèche, mes parents sont originaires de l'Ardèche. J'ai gardé les vaches toute ma vie. Et devant ce milieu rural, j'ai pu tomber amoureux à la fois de la nature et des animaux. Et grandissant, réalisant un peu plus, en lisant énormément de journaux, je suis un fou de journaux, à l'âge de 8-9 ans, on m'a surnommé Midi Libre, du nom du journal local du Sud. J'étais abonné au Monde à l'âge de 16 ans, et donc ça fait 40 ans que je suis abonné. J'ai toujours été passionné par ça, donc j'ai découvert le Monde, et puis je me suis aperçu en découvrant ça qu'il y a des gens qui mouraient de faim, et d'autres qui mouraient de trop manger. Et parmi les premières manifestations que j'ai organisées à la région parisienne, c'était vaincre la faim, mieux se nourrir, avec des tas d'associations, et donc certains deviennent obèses et meurent de trop manger, maladies cardiovasculaires, diabète et tout. Et d'autres, des millions et des millions meurent, 18 000 enfants par jour, meurent de malnutrition. Et ça, c'est une honte, c'est révoltant de voir ces deux paradoxes sur notre planète Terre.
Et voilà. C'est ce qui a été à l'origine de cette prise de conscience écologique, dans la question de la malnutrition.
La question de la malnutrition, je suis devenu écologiste par l'intermédiaire du tiers-monde. Voilà. Tiers-monde, la mort de faim, malnutrition d'un côté, surnutrition de l'autre, c'est ça qui m'a révolté. Et puis j'ai développé mes réflexions, mes actions sur tous les thèmes de l'écologie.
Alors, je vous propose maintenant de réagir à notre sélection de l'actualité avec tout d'abord cette mise au point des 27 sur la négociation climat de Copenhague lors du sommet européen de Bruxelles. Car l'Europe est prête à montrer l'exemple avec des objectifs chiffrés et un calendrier de réduction de ses gaz à effet de serre, mais reste partagée quant au montant du financement de l'aide aux pays du Sud, qui sera un des points très importants dans la négociation finale. D'autre part, on apprenait ce matin que les 27 ont avancé sur ce dernier point, mais souhaitaient lier leurs engagements financiers à l'aide que les autres grandes puissances économiques seraient prêtes, elles aussi, à mettre sur la table. Jacques Exbalin, cette négociation est complexe, mais l'enjeu est facile à comprendre. Si on n'arrive pas à freiner le réchauffement climatique, on va vers des problèmes gravissimes. Ce message, vous avez l'impression déjà qu'il est acquis par tout le monde ?
Il n'est pas assez acquis, puisque les populations, à mon avis, à mon humble avis, ne sont pas prêtes encore. On voit les réactions sur la taxe carbone, qui a peut-être été mal expliquée. Enfin, dès qu'il s'agit d'augmenter de quelques centimes les prix, de prendre des mesures qui ne sont pas populaires pour éviter ce réchauffement dramatique, on verra pourquoi après, il y a une levée de boucliers. Donc, beaucoup de gens ne sont pas encore assez convaincus des catastrophes qui s'annoncent et qui sont évoquées par l'ensemble du monde politique, social, associatif, du monde entier. Tout le monde dit que le réchauffement climatique est un véritable fléau, une catastrophe humanitaire. Les Maldives font un conseil des ministres sous la mer, à 6 mètres sous l'eau, parce qu'ils vont disparaître. On multiplie tous les exemples. Les îles Kiribati sont en train d'envoyer leur population ailleurs parce qu'ils savent qu'ils vont disparaître. De partout, il y a des signaux qui montent. Et les populations des pays riches, des pays nantis, certains gardent leur bien-être, leur confort, leurs dépenses énergétiques et ne veulent pas la réduire. Et le fond, c'est ça. On ne s'en sortira pas par les nouvelles technologies, on s'en sortira par une baisse très importante de la consommation.
Alors, dans un autre domaine, le Muséum d'Histoire Naturelle et Pro Nature Internationale lance un ambitieux programme d'expédition naturaliste. Darina Petrova a rencontré les gens du Muséum et de Pro Nature.
L'ampleur de la crise de la biodiversité est considérable. Le quart, voire la moitié des espèces pourraient disparaître d'ici le milieu ou la fin du siècle, avant même d'être découvertes. Pour cette raison, le Muséum international d'histoire naturelle a lancé un programme des expéditions naturalistes. Olivier Pascal, botaniste et directeur de l'ONG Pro Nature International.
On est dans les domaines de la taxonomie, de la découverte de nouvelles espèces, etc. Donc l'aspect, je dirais, un peu comptable de la nature, des plantes, des animaux. On va sans doute en découvrir un bon nombre. On va aussi s'intéresser surtout aux relations des forêts qu'on va inventorier. Avec celles qu'on connaît mieux dans d'autres pays, plus au nord, en Tanzanie en particulier et au Kenya. On espère surtout y trouver des nouvelles espèces d'arbres qui ne sont actuellement recensées qu'en Tanzanie et d'étendre un petit peu leur aire géographique au-delà de la frontière mozambicaine, parce que pour nous ce sera des preuves en quelque sorte que ces forêts sont semblables, similaires et qu'elles appartiennent bien aux groupes de végétation considérés, qui sont considérés par les biologistes de la conservation et les grandes ONG comme un des 10 écosystèmes les plus importants en Afrique. Donc, si quelque part on arrive à dire à tous que les forêts qu'on visite dans le nord du Mozambique ressemblent ou font partie, je dirais, de ces communautés végétales, le pari est un petit peu gagné, en tout cas la première partie du pari est gagnée, sachant que on va tenter par la suite d'intéresser évidemment des bailleurs de fonds, des décideurs, des planificateurs qui font la politique mondiale de la conservation. Et on va essayer de mettre un petit peu sur le dessus de la pile ces forêts mozambicaines pour que, in fine, on l'espère, elles soient protégées. Donc d'où l'intérêt aussi de faire ce genre d'inventaire, c'est de donner une existence quelque part réelle pour qu'ils soient finalement pris en compte.
La tâche à accomplir reste énorme, quand selon les estimations, il y a encore sur notre planète entre 8 et 30 millions d'espèces inconnues.
Jacques Esbalin, une réaction à cette relance des inventaires de biodiversité ?
Je pense que c'est une excellente initiative. Le souci, c'est d'éviter la déforestation qui ravage des dizaines de milliers d'hectares chaque année, qui fait perdre la vie des orang-outans, les derniers orang-outans à Bornéo. Tout ça pour faire des palmiers à huile qui servent en partie à faire des biocarburants. Autre hérésie qui n'est absolument pas une solution pour lutter contre le réchauffement climatique.
دوتي انا مها فرنسي عربي مها بشم دوتي انا مها ما همنيش اشكال وفي راسي وروحي بين يدين بشم دوتي انا مها ما همنيش اشكال وفي بشم قلبي انا مها كل نهار يا عيني قلت كان فكر فيك مع المدة قلوا شكي فيك وقالوا لي حضي راسك الوقف سعيك وقالوا لي حضي راسك الوقف سعيك
موسيقى Ahmed Sultan dans C'est pas du vent sur RFI. Tout de suite, zoom sur l'actualité environnementale d'un continent et comme tous les vendredis, direction le Proche et le Moyen-Orient. Bonjour Monique Mince.
Bonjour.
Alors aujourd'hui nous allons parler des eaux souterraines qui sont une spécialité de la péninsule arabique, des aquifères dont certains recèlent des eaux fossiles qui ne sont pas renouvelables.
Oui, c'est le cas notamment de l'aquifère frontalier de Dissi qui passe au sud de la Jordanie et au nord de l'Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont commencé à l'exploiter il y a quelques années, ce qui inquiète grandement les Jordaniens parce que bien sûr, quand on pompe d'un côté, eh bien on vide ce qui en fait n'est qu'un réservoir.
Alors un aquifère, c'est littéralement de l'eau qui est contenue dans la roche du sous-sol.
Oui, il peut y en avoir sur plusieurs niveaux et à différentes profondeurs. La nappe phréatique, par exemple, eh bien, c'est l'aquifère le plus proche de la surface. Ces poches d'eau peuvent contenir de l'eau salée ou de l'eau douce de différentes qualités. Certaines peuvent même se recharger avec la pluie. On parle alors d'aquifères renouvelables, à la différence de ceux dont on va parler maintenant, des aquifères fossiles qui sont donc très nombreux au sud du Moyen-Orient. Il y a en effet beaucoup d'eau dans le sol, mais celle qu'on va pomper ne servira qu'une fois. Or, c'est justement ce qui va se passer avec un projet saoudien, comme l'explique Frédéric Lasserre, qui dirige l'Observatoire des recherches internationales sur l'eau à l'Institut québécois des hautes études. Frédéric Lasserre.
L'Arabie Saoudite aimerait bien mettre en valeur cette eau pour développer son agriculture irriguée, pour faire pousser des cultures en plein désert. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser de l'eau fossile, donc qui ne servira qu'une seule fois, pour faire pousser du blé et des tomates dans le désert?
Et tout ça avec une évaporation énorme?
Exactement, c'est ce qui fait qu'il faut pomper énormément d'eau pour assurer ces cultures, cette irrigation. Ça a été un problème important dans la stratégie agricole de l'Arabie Saoudite, qui dans les années 80 avait subventionné beaucoup d'agriculteurs pour qu'ils développent l'irrigation, au point que au milieu des années 80, l'Arabie Saoudite était devenue le sixième exportateur mondial de blé. Mais très vite, les autorités saoudiennes se sont rendues compte qu'à ce rythme-là, les aquifères fossiles seraient épuisés en l'espace de 15 années. Donc on a cessé les subventions et l'irrigation a beaucoup diminué. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas pratiquer l'agriculture en Arabie Saoudite. L'irrigation très localisée dans des oasis, ça se fait depuis des siècles avec des volumes d'eau relativement restreints. Ce qui est beaucoup plus contestable d'un point de vue environnemental, ce sont d'immenses champs en plein désert, donc complètement exposés au soleil, où on cultive des espèces qui demandent beaucoup d'eau, comme le maïs, des céréales ou de la luzerne. Bah, c'est effectivement vraiment aberrant.
Et là, en l'occurrence, dans ces aquifères communs à la Jordanie et à l'Arabie Saoudite, c'est en outre facteur de conflit?
Oui, effectivement, puisque on connaît mal encore la façon dont l'eau circule à travers l'aquifère. Ce qui est probable, c'est que si l'Arabie Saoudite pompe beaucoup, forcément ça va faire une espèce de vide dans l'aquifère. L'eau risque de migrer à travers les roches poreuses de l'aquifère pour aller du côté saoudien, ce qui laisserait beaucoup moins d'eau du côté jordanien.
Frédéric Lasserre, un aquastratège, si j'ose dire, il vient en tout cas de signer une somme internationale intitulée « Les guerres de l'eau » aux éditions de la Villa en France.
Merci Monique Mince.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Jacques Esbalin, une réaction sur ces aquifères au Moyen-Orient?
C'est le problème majeur de beaucoup de régions où les guerres de l'eau s'annoncent suite à la raréfaction de l'eau, et ce n'est pas d'aller chercher dans les nappes fossiles, comme vous l'avez expliqué, qui est une solution à long terme, c'est une solution à court terme, qui provoque aussi, vous venez de l'évoquer, des conflits, parce que cette solution a déjà provoqué des échecs terribles en Jordanie, où beaucoup de surfaces irriguées ont été abandonnées.
Alors, Jacques Esbalin, nous l'évoquions tout à l'heure, vous avez écrit un livre aux éditions de l'Harmattan intitulé « Le réchauffement climatique à la portée de tous ». Alors c'est un travail qui vous semblait nécessaire d'expliquer le réchauffement climatique au plus grand nombre?
Oui, c'est plus que nécessaire, puisque je pense que l'ensemble des populations mondiales, surtout dans les pays développés, qui sont quand même les plus polluantes, n'ont, à mon avis, pas encore assez pris conscience des effets catastrophiques du réchauffement climatique. Je voudrais citer quelques petits exemples, parce que ça serait trop long. Il faut quand même savoir que les femelles ours ont perdu 65 kilos en 20 ans, que le crâne des ours blancs est de plus en plus réduit. Et donc, si les femelles ours ne mangent pas assez pendant leur grossesse et dans leur gestation, il y a de moins en moins de petits. Et au bout d'un certain moment, il n'y en aura plus. Voilà où on en est. Deuxième exemple, on vient de s'apercevoir, c'est une dépêche très récente, l'Académie des sciences a dévoilé qu'en moyenne, les poissons, toutes les différentes espèces de poissons ont perdu en moyenne 50% de leur masse corporelle au cours des 20 à 30 dernières années. Que la masse totale des poissons présents dans les eaux européennes a baissé de 60%. Vous voyez, deux ou trois autres exemples. Aussi, un autre chiffre apporté par une organisation mondiale présidée par Kofi Annan, c'est que le réchauffement climatique provoque aujourd'hui, hein, c'est pas dans 20, 50 ans ou 100 ans, 300 000 morts par an. 300 000 morts, je répète, surtout à cause de la malnutrition, à cause des maladies. D'autre part, toujours en 2008, il y a eu 20 millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire qui ont dû quitter leur pays à cause de différents problèmes environnementaux. Donc c'est pas deux ou trois, c'est 20 millions. On a l'exemple du Bangladesh où il y a déjà 6 îles qui ont été envahies par les eaux. On voit l'eau qui monte avec ses enfants affreusement déboussolés qui doivent quitter leur maison. Et l'Inde, pour éviter qu'il y ait un afflux de réfugiés du Bangladesh, a construit un mur de 4200 km de barbelés pour éviter ces milliers, voire même ces millions de réfugiés qui vont quitter leur pays pour aller dans un autre pays. Voilà le drame. Ce sont les millions de réfugiés qui seront 200 millions en 2030.
Voilà. Alors, on reproche souvent aux écologistes d'être anxiogènes, d'être des porteurs de mauvaises nouvelles. Vous avez l'impression que vous êtes entendu quand vous donnez justement tous ces petits exemples?
Mais c'est pas les écologistes qui disent ça, ce sont des rapports de l'ONU ou des agences de l'ONU. On ne fait que répéter ce que disent. Si c'était les écologistes, on ne les écouterait pas. On dirait qu'ils font du catastrophisme. On n'essaie pas de faire du catastrophisme. Tout ce que je vous dis est écrit en gros dans les journaux. Donc on essaie de dire les réalités et de montrer à l'ensemble des décideurs, des hommes politiques, mais aussi de la population, qu'il y a urgence à agir. Un autre exemple, les méduses. On a beaucoup ironisé sur les méduses qui piquent les gens. On fait des murs de protection qui reviennent très très cher sur les plages de Cannes ou de Saint-Raphaël. Il y a une méduse qui s'appelle la Chironex qui a le poison le plus mortel de toutes les espèces vivant au monde. C'est-à-dire elle le tue en 4 minutes. Et cette méduse qui vit au nord de l'Australie a été aperçue en France, au large de Marseille, au mois d'août. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était écrit dans les journaux. Donc on l'appelle... c'est l'animal le plus venimeux de la Terre. Et une seule méduse, Chironex, peut tuer 60 personnes. Donc ça, ce n'est pas une lubie des écologistes, c'est une réalité. Il y a des dangers qui sont de plus en plus fréquents, en dehors des problèmes humains qui sont quand même les plus importants, des dangers qui se développent, se multiplient. Les ours, j'en ai parlé, la population de Chine... à cause de la fonte des glaciers de l'Himalaya dans 35 ans, que vont faire les centaines de millions de Chinois qui seront privés d'eau?
Ouais. Bon, affaire à suivre. D'ailleurs, vous mettez à jour en permanence votre livre. Hein. Vous êtes en permanence en train, justement, de rajouter des petites informations. Il va y avoir une nouvelle édition?
J'espère qu'il y aura une nouvelle édition. Et je profite des vacances scolaires pour le réactualiser, parce que sans arrêt, on a des nouvelles dépêches, des nouveaux rapports officiel, et donc j'essaie d'être le plus près de l'actualité et le plus près de l'objectivité pour pas raconter de bêtises. Et j'ajouterai un mot, tous mes articles sont relus par les meilleurs spécialistes en France, ce qui est un gage d'objectivité et de sérieux.
Merci Jacques Aixbalin de votre visite. C'est pas du vent, revient donc juste après un bref rappel de l'actualité et nous parlerons de l'eau en Irak. À tout de suite.